Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier.
L'Inde est le berceau de la race humaine, la mère de l'histoire, la grand-mère des légendes et l'arrière-grand-mère des traditions. Amis auditeurs, bonjour. Cette sentence de Mark Twain révèle à quel point l'Inde a marqué l'humanité. Ce n'est pas qu'un pays géographique, c'est un centre de civilisation, une source de savoir millénaire et un terreau spirituel unique. Immergeons-nous aujourd'hui dans ce pays aux plus de 1600 langues et dialectes, dont la superficie couvrirait 6 fois la France. Amis auditeurs, vous êtes bien sûr Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris qui vous plonge au cœur de l'Asie sur Radio Notre-Dame et RCF. Je reçois aujourd'hui sur mon plateau un expert de l'Inde et de sa géopolitique. Bonjour Olivier Dallage.
Bonjour.
Vous êtes un ancien rédacteur en chef de RFI, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et vous publiez « L'Inde, un géant fragile » aux éditions Erol en 2022. Monsieur Dallage, au moment où nous nous parlons, un terrible attentat, ce 22 avril, a fait 25 morts. Avant peut-être de plonger dans les tenants et aboutissants de cet attentat, parlez-nous de l'histoire de l'Inde, de son indépendance en 1947. Est-il juste de considérer que cette indépendance a créé l'attentat auquel nous avons assisté ?
Indirectement, oui, puisque d'une part, il y a eu la partition qui a séparé deux ensembles qui composaient l'Inde britannique, ou les Indes britanniques, avec la naissance du Pakistan, qui a amputé l'Inde historique d'une partie importante de son territoire et de sa population. Et deuxièmement, il y a un litige essentiel qui s'est produit au moment de la séparation, et en fait même un petit peu après, c'est le contrôle du Cachemire. Le Cachemire que l'on considérait à l'époque comme la Suisse de l'Inde, composé majoritairement d'une population musulmane, mais dirigée par un maharaja hindou, et les deux futurs pays revendiquaient la souveraineté sur le Cachemire. Le maharaja qui pensait obtenir son indépendance complète, et de l'Inde et du Pakistan, a joué avec le temps. Mais côté pakistanais, on est intervenu pour hâter sur le terrain l'appropriation du Cachemire, et donc affolé, le maharaja a demandé l'aide des Indiens, et ça a été la première guerre indo-pakistanaise. Il y en a eu d'autres après, ayant aussi pour cause le Cachemire, et à la suite du conflit de 1971, qui concernait cette fois-ci ce qui est devenu le Bangladesh, l'ancien Pakistan oriental, il y a eu un accord quasiment de paix entre l'Inde et le Pakistan, qu'on appelle les accords de Simla, et qui définissent ce qu'on appelle la ligne de contrôle, qui tient lieu, en fait, c'est une ligne de démarcation qui tient lieu de frontière entre l'Inde et le Pakistan, notamment dans la zone du Cachemire. Ça n'a jamais été réglé. Il y a des mouvements indépendantistes cachemiris ou séparatistes cachemiris qui demandent le rattachement au Pakistan, et avec l'appui des services secrets pakistanais. De leur côté, les Indiens dirigent ce qui était un État jusqu'à récemment d'une main de fer. Et puis en 2019, le gouvernement indien, juste après la réélection de Modi, a supprimé, par un vote du Parlement, le statut spécial dont disposait le Cachemire, pour le rattacher à l'Inde sans distinction particulière. Et ça a été évidemment assez mal vécu par la population, d'autant qu'il y a eu une répression assez sévère, Internet coupé, dirigeants en résidence surveillée ou arrêtés, journalistes aussi. Et du côté du Pakistan, ils ont pris ça pour, comme on dit en anglais, une cause célèbre, c'est-à-dire défendre l'autonomie, l'indépendance du Cachemire, c'est-à-dire le rattachement en fait au Pakistan. Et donc c'est un abcès qui est toujours là, qui est toujours vivant, et on le voit avec les derniers attentats et les échanges de mesures et contre-mesures de représailles qui ont été annoncées et par l'Inde et par le Pakistan.
Quelles sont les caractéristiques de ce territoire ? Pourquoi est-il si stratégique ?
Il est stratégique parce qu'il se trouve... D'abord, c'est la Suisse de l'Inde. C'est-à-dire que c'est verdoyant, il y a des rivières, des fleuves qui traversent à la fois qui, l'Inde et le Pakistan. Historiquement, il y avait donc une activité assez importante. Dans les années 90, les mouvements séparatistes musulmans ont chassé un grand nombre d'hindous qui vivaient depuis toujours, ou en tout cas depuis très longtemps, au Cachemire, ce qu'on appelle les Kashmiri Pandits, et donc ils ont été forcés à l'exode. Ça a été le début d'une nouvelle guerre civile, cette fois-ci, terroriste, colonial, comme vous voulez, ça dépend du point de vue où on se place, mais qui a fait de nombreux morts et surtout qui a profondément affecté l'économie du Cachemire. Donc, si le Pendjab, c'est le grenier à blé, le Cachemire, c'est le joyau que les deux pays veulent posséder. Ils veulent le posséder intégralement. C'est-à-dire que, aussi bien côté pakistanais que côté indien, même du côté des réalistes, on refuse d'admettre que cette division est pour toujours.
Olivier Dallage, nous sommes le mardi 22 avril. Cet après-midi, plusieurs tireurs ouvrent le feu sur des terroristes dans la ville de Pahalgam, tuant 25 Indiens et un ressortissant népalais. Cette attaque, attribuée par l'Inde à des islamistes soutenus par le Pakistan, est la plus meurtrière visant des civils menée depuis 2000 dans ce territoire indien. Que s'est-il passé, Olivier Dallage ?
Exactement, on ne le sait pas. Ça a été revendiqué par un mouvement que personne ne connaissait, mais qui peut être une couverture pour d'autres mouvements qui sont bien connus. Les Indiens, par exemple, mettent en cause directement un mouvement qui s'appelle le Lashkar-e-Taiba, qui est aussi à l'origine des attentats de Bombay en novembre 2008, qui ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés, et qui visaient également un symbole, c'est-à-dire que ça visait une ville cosmopolite, des lieux, des grands hôtels, des cafés où on trouvait des étrangers. Donc il s'agissait de frapper l'image et l'économie indienne. Là, ça visait des touristes indiens. On disait tout à l'heure que le Cachemire a connu une période de marasme économique. Mais depuis environ deux, trois ans, les touristes indiens du reste de l'Inde affluent au Cachemire, ce qui d'ailleurs bénéficie à la population cachemirie. Et l'an dernier, par exemple, il y en avait à peu près 3 millions. Bon, il est clair qu'en visant des touristes indiens et même hindous, puisqu'apparemment les attaquants ont demandé la religion des personnes qui étaient alignées avant d'exécuter ceux qui étaient hindous, ça va décourager le tourisme, c'est une évidence, et donc ça va affecter l'économie, avec l'idée en plus que la population va en souffrir et donc va attribuer la responsabilité à l'Inde, de la même façon qu'actuellement, des étudiants cachemiris dans d'autres régions de l'Inde sont l'objet de harcèlement, de discrimination, parce qu'on les rend responsables de ce qui s'est passé.
Le Premier ministre indien Narendra Modi a promis ce jeudi que son pays traquerait les auteurs de l'attentat. Je le dis, jusqu'au monde entier, l'Inde identifiera, poursuivra et punira les terroristes et ceux qui les soutiennent. Fin de citation. Olivier Dallage, ce sont des menaces envers le Pakistan. Jusqu'où peut aller ce conflit ?
Ah, jusqu'où, on ne le sait pas. Mais ce sont très clairement des menaces contre le Pakistan. Jusqu'au bout du monde, en réalité, le bout du monde, dans la tête de Narendra Modi, c'est le Pakistan. Qui, pour lui, mais comme d'ailleurs pour une écrasante majorité d'Indiens, est derrière ce qui s'est passé. En 2016 et en 2019, il y a eu d'autres attentats au Cachemire contre des soldats indiens. Et ça avait été suivi, en 2016, de ce qu'on a appelé une frappe chirurgicale. Et en 2019, des avions indiens avaient bombardé, non pas le territoire de la partie contrôlée par le Pakistan au Cachemire, mais à l'intérieur même du Pakistan proprement dit. Ça n'avait pas fait beaucoup de victimes ou de dégâts, enfin c'est controversé. Là, la vigueur des propos de Narendra Modi et de toute la classe politique, puisque l'opposition, jeudi, au Parlement, a apporté un soutien sans réserve à ce que pourra faire le gouvernement en réaction. Donc de ce point de vue-là, il y a eu un unanimisme de la société et de la classe politique indienne pour donner une leçon aux Pakistanais. Alors jusqu'où ça peut aller, tout dépendra de l'ampleur de cette leçon. Tout dépendra aussi de la façon dont les Pakistanais décident ou pas de riposter, et s'ils ripostent, de la nature de la riposte, qui pourrait, si elle est jugée trop forte, entraîner à son tour une contre-riposte indienne, et on mettrait le doigt dans un engrenage dont personne ne connaît l'issue. D'autant quand même que, même si c'est pas l'hypothèse la plus probable, il faut garder à l'esprit que les deux États sont des États nucléaires depuis 1998. Il y a déjà eu une guerre entre l'Inde et le Pakistan, une petite guerre limitée, mais qui se tenait déjà dans les hauteurs de l'Himalaya en 99, et aucun des deux pays n'avait recouru, bien sûr, à l'arme nucléaire. Mais à un moment donné, si l'un des deux pays se sent en situation de vulnérabilité, rien n'est exclu. Bon, on n'en est pas là, il ne s'agit pas non plus de commencer à paniquer, mais on a affaire à deux puissances nucléaires qui vont se faire au minimum un conflit limité, et peut-être davantage.
Dans l'hypothèse d'une guerre ouverte, qui pourrait soutenir le Pakistan, qui pourrait soutenir l'Inde ?
Alors, soutenir l'Inde, quasiment tout le monde. D'ailleurs, après l'attentat du 22 avril, l'Inde a reçu le soutien d'un très grand nombre de pays, soutien politique, on ne parle pas de soutien militaire. Le Pakistan est en fait extrêmement isolé, et en plus dans une situation économique, le FMI est à son chevet, et quand le FMI est au chevet d'un pays, c'est pas bon signe. Quant à la Chine, qui est le principal soutien politique, financier du Pakistan, elle s'est, à ma connaissance, pas exprimée sur le sujet, et elle n'a probablement pas envie d'être entraînée dans un conflit avec l'Inde. Donc le Pakistan, si on rentre vraiment dans un conflit de grande ampleur, est vraisemblablement le perdant de ce conflit. Donc c'est pour ça qu'on peut penser que tout sera calibré, un petit peu comme les échanges de missiles ont été calibrés entre Israël et l'Iran il y a quelques mois. Mais encore une fois, on n'est jamais à l'abri d'un dérapage.
On reste avec vous, Olivier Dallage, on reste avec vous tout de suite, juste après cette pause musicale. Amis auditeurs, restez bien avec nous. On se retrouve tout de suite, juste après ça. Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know. We were talking to the sunset, throwing dreams against the wall. I know none of us talk yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights are changing. My heart, my mind is set on you. I'm not afraid to say it's true. Oh, I hope you know. Every time. Soon gets hard. These days, these nights are changing. My heart, my mind is set on you. I'm not afraid to say it, to say I do. Et nous retrouvons Olivier Dallage, expert de l'Inde et auteur de L'Inde, un géant fragile aux éditions Erol en 2022. Olivier Dallage, nous retournons encore une fois sur cet attentat qui a fait 25 morts. L'Inde ordonne aux citoyens pakistanais de quitter le territoire d'ici le 29 avril. De son côté, le Pakistan annonce qu'il prendrait des mesures fermes contre toute menace indienne. Ce conflit entre l'Inde et le Pakistan, il révèle les tensions qui existent entre les deux pays, vous nous l'avez dit. Au fond, quelles sont les conséquences si jamais l'Inde choisit d'expulser tous les Pakistanais ? Quelles sont les conséquences sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan culturel ?
C'est pas la mesure qui aura le plus de conséquences. Il y a quelques centaines de milliers de Pakistanais en Inde, il y a je ne sais pas combien d'Indiens au Pakistan, mais ça ne fait pas beaucoup de monde à l'échelle de ces deux pays. C'est très inconfortable, pour ne pas dire davantage, pour les personnes concernées. Mais ça ne va pas nuire à la situation réciproque de l'Inde et du Pakistan. Ce qui est plus grave, c'est la décision annoncée par l'Inde de suspendre un traité sur le partage des eaux de l'Indus qui a été signé en 1960 sous l'égide de la Banque mondiale. Et ce traité avait survécu à la fois à la guerre de 1965 et à la guerre de 1971. Et le Pakistan, notamment le Pendjab pakistanais, est extrêmement dépendant de l'Indus et de ses affluents pour l'irrigation d'une zone qui est très agricole. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est qu'en représailles, le Pakistan a annoncé son intention de suspendre le traité de paix de Shimla, qui a été signé après la guerre de 71, donc en 72, et qui impose aux deux parties d'abord de négocier pacifiquement leurs différends, et surtout qui détermine cette fameuse ligne de contrôle, cette ligne de démarcation qui tient lieu de frontière, notamment dans la zone du Cachemire. Si l'accord est suspendu, ça veut dire qu'il n'y a plus de ligne de contrôle et que donc la frontière devient open bar pour celui qui veut la franchir sans qu'on puisse lui objecter quoi que ce soit sur le plan légal. Après, il y a d'autres mesures, l'interdiction de survol aérien du Pakistan par les avions indiens, ça rallonge les trajets aériens. Mais ils peuvent aller plus loin. Enfin, ce sont des mesures non militaires, mais ce sont des mesures très graves et qui n'ont pas de précédent, encore une fois, depuis plusieurs dizaines d'années.
D'un point de vue plus large, sur le plan géopolitique, la position de l'Inde apparaît ambiguë. Olivier Dallage, quelle est sa stratégie pour s'imposer comme un véritable acteur sur la scène internationale ?
C'est le fameux multi-alignement qui a pris la suite du non-alignement. Le non-alignement, c'était la politique de troisième voie, neutraliste, anticoloniale, développée notamment par Nehru après l'indépendance et qui a été poursuivie par ses successeurs. Depuis une vingtaine d'années, il y a une évolution et elle a été formalisée par l'actuel gouvernement, notamment son ministre des Affaires étrangères qui est en poste depuis 2019. C'est le multi-alignement qui consiste en fait à profiter des opportunités là où elles se présentent, même si ça peut apparaître contradictoire dans la politique globale. Et donc, dit autrement, ça veut dire que l'Inde joue sur tous les tableaux et joue des contradictions de ses adversaires en sachant très bien manier les siennes propres, sachant que son économie progresse. Elle est aujourd'hui la troisième puissance économique du monde, la cinquième puissance économique du monde, mais elle sera dans les années qui viennent la troisième, donc devant le Japon et devant l'Allemagne. Il n'y aura plus que les États-Unis et la Chine devant elle sur le plan économique. Mais rapporté à sa population, ça reste un pays pauvre. C'est-à-dire que au sein du G20, puisque l'Inde, qui a présidé le G20 en 2023, tient beaucoup à cette configuration, elle est 20e sur 20 en termes de revenus par habitant. Donc, c'est encore un pays en train d'émerger. D'ailleurs, Modi lui-même fixe à 2047, c'est-à-dire un siècle après l'indépendance, l'objectif de devenir un pays développé. Donc, ça veut bien dire qu'il ne l'est pas encore. Mais elle joue aussi de ses bonnes relations avec un grand nombre de pays. Les États-Unis, c'est relativement récent, mais ça s'accentue. Quand je dis récent, ça veut dire que ça remonte à une vingtaine d'années. Ça a été poursuivi par tous les gouvernements. Avec la Russie, qui n'a pas été laissée tomber. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Inde n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine. Avec la France, on en parlera peut-être. Et d'une manière générale, avec tous les pays, hormis le Pakistan. Et il y a le cas chinois qui est très particulier.
Mais parlons-en de ce cas chinois, justement. On sent une tension économique entre ces deux géants. L'Inde est officiellement passée devant sur le plan démographique. Et ils sont pourtant tous les deux membres des BRICS. Parlez-nous de cette tension, Olivier Dallage.
Alors, il faut se rappeler d'abord qu'il y a eu une guerre entre l'Inde et la Chine en 1962. L'Inde a attaqué pour remettre en cause la frontière héritée de la colonisation britannique, qu'elle n'avait jamais reconnue. Et les dirigeants indiens, qui avaient péché par excès de confiance dans leur bonne relation, qu'ils croyaient être leur bonne relation avec les dirigeants chinois, n'ont pas vu venir l'attaque. Les Américains n'ont pas soutenu l'Inde, les Britanniques non plus. Ce sont les Russes, les Soviétiques, qui ont apporté un soutien politique à l'époque, ils n'ont pas militaire. Et quand la guerre s'est arrêtée, l'Inde avait été écrasée, les Chinois se sont partiellement retirés des territoires qu'ils avaient occupés, mais c'est resté comme un traumatisme pour les Indiens. Et il y a encore des tensions à la frontière. En 2017, puis à nouveau en 2020, il y a eu des incursions. Les soldats chinois sont très probablement sur le territoire indien, même si le gouvernement indien ne le reconnaît pas. Les négociations n'ont pas abouti à grand-chose. Il y a cependant un dégel très significatif depuis le mois d'octobre de l'année dernière. Et les vols, les liaisons aériennes ont repris, la délivrance de visas aussi, la tonalité a changé. L'Inde a échoué, en fait, à enrayer la progression chinoise sur le plan économique parce qu'ils avaient décrété des embargos. Et malgré ça, le commerce entre l'Inde et la Chine n'a jamais été aussi florissant. C'est une relation complexe parce qu'ils sont en situation d'hostilité sur le plan territorial et en rivalité sur le plan de l'influence, non seulement en Asie, mais même au sein de ce qu'on appelle le Sud global, dont les BRICS sont une illustration, mais ça va bien au-delà. Et puis, ils sont même en forme de coopération quand il s'agit de discuter du statut de la Banque mondiale, du climat, etc. Donc, c'est très complexe.
Est-ce que vous diriez que la principale force de l'Inde, c'est précisément sa démographie ?
Ça pourrait l'être. Le problème, c'est que les jeunes indiens sont mal formés, donc ils ne trouvent pas d'emploi au niveau qui devrait être celui d'une puissance de l'importance de l'Inde. Et ce qu'on appelle le dividende démographique, l'Inde n'en bénéficie pas véritablement. L'âge médian est aujourd'hui de l'ordre de 28 ans, c'est-à-dire médian, c'est ce qui sépare en deux parties égales la population. Donc la moitié de la population a 28 ans au moins, et l'autre moitié a plus de 28 ans. Mais l'Inde a accompli sa transition démographique, c'est-à-dire que maintenant il n'y a plus de croissance démographique au-delà du remplacement. L'Inde va continuer de croître, mais la croissance va s'arrêter aux alentours de 2065, et à partir de là, ça devrait commencer même à diminuer légèrement. Et ça veut dire aussi que cette population jeune, elle va devenir vieille. Or, il n'y a pas de sécurité sociale digne de ce nom en Inde. Il n'y a pas de retraite, hormis la retraite des fonctionnaires qui est très limitée, ou quelques grandes entreprises qui donnent... La sécurité sociale des Indiens, c'est leur famille, c'est leur village, c'est leur communauté, etc. Si tout le pays vieillit et que derrière, ça ne vient pas remplacer, que les mesures compensatoires n'ont pas été prises, et il faut les prendre maintenant, là, dans les... toutes prochaines années, après ce sera trop tard, eh bien on aura des charges financières et sanitaires absolument insupportables pour un pays aussi grand que l'Inde, qui n'a pas une économie capable de faire face à ça. Il faut rappeler quand même que la Chine est aujourd'hui une économie 6 fois supérieure à l'économie indienne, donc il y a du rattrapage à faire.
Olivier Dallage, parlons à présent de la France. On a vu notamment un partenariat récent autour de l'intelligence artificielle. L'Inde et la France sont de bons amis, Olivier Dallage ?
De très bons amis. Ça remonte à très loin, mais disons que pendant assez longtemps, l'Inde ne l'a pas mise en avant. Ça avait commencé dans les années 50. Il y a une coopération spatiale qui a commencé dès le début des années 60 avec l'agence spatiale indienne, soutenue notamment par la France et par d'autres. En matière militaire, des avions avaient été livrés dans les années 50, c'était les Ouragans, puis sous Mitterrand, ce sont des Mirages, et puis depuis 2015-2016, ce sont les fameux Rafales. Le fait que l'Inde ait renoncé à certaines de ses exigences d'avant pour permettre la conclusion du sommet de Paris sur le climat en 2015 a beaucoup fait progresser les choses. Donc le contrat sur les Rafales est venu dans la foulée. Après l'élection d'Emmanuel Macron, il a fait un voyage en 2018 qui a confirmé les bonnes relations déjà établies. Le partenariat stratégique qui avait été noué par Jacques Chirac en 1998, à une époque où la France, contrairement à beaucoup d'autres pays occidentaux, s'était refusée à condamner les essais nucléaires indiens, ce qui n'a pas été oublié, eh bien, ce partenariat stratégique vient d'être renouvelé et, par exemple, la marine indienne, qui a besoin de bases à l'étranger, peut utiliser les bases françaises de l'océan Indien, et réciproquement. Donc oui, c'est un partenariat très étroit. Modi était l'invité le 14 juillet pour une visite d'État en 2023. 6 mois plus tard, Macron était l'invité de la Journée de la République en janvier. Et depuis, cette alliance de deux puissances moyennes, même si elles ne sont pas du tout de la même taille, leur permet d'exister sur la scène internationale à un niveau supérieur à ce qui serait le leur autrement.
Que peut-on imaginer pour l'avenir entre ces deux puissances ?
Que ça continue, que ça s'approfondisse. Alors, il ne faut pas se raconter d'histoire. La France n'a pas l'envergure ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de la Chine, de ce point de vue-là. Mais en tant que puissance qui se veut, qui se revendique d'une autonomie stratégique qui est également revendiquée par l'Inde, Je pense que c'est un partenariat qui dépasse les dirigeants actuels et qui correspond à une certaine parenté de vue.
Merci beaucoup, Olivier Dallage, auteur de L'Inde, un géant fragile, aux éditions Erol en 2022. Nous verrons, amis auditeurs, ce que l'actualité nous réserve. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Que la paix soit avec vous.